Le Journal, Stanislas Vazac, bonsoir.
Bonsoir. Vincent Bolloré en garde à vue dans une affaire de corruption présumée. L'industriel doit s'expliquer sur les conditions dans lesquelles son groupe a obtenu des concessions portuaires en Afrique. Les explications de Florence Turme dans un instant. Mobilisation en très légère baisse à la SNCF, mais le trafic reste perturbé grâce à la forte mobilisation des conducteurs. Édouard Philippe accepte finalement de recevoir les syndicats de la SNCF le 7 mai prochain. Peut-on parler d'apaisement à Notre-Dame-des-Landes ? En tout cas, la préfète Nicole Klein se félicite d'avoir reçu plusieurs dossiers de régularisation. Le reportage de notre envoyé spécial Philippe Randé. L'accord sur le nucléaire iranien, un désastre, dixit Donald Trump. Le président américain s'exprimait devant Emmanuel Macron qui lui défend cet accord. Nous serons en direct de Washington avec Grégory Phillips. L'échec de la communauté internationale en Syrie, pointé à Bruxelles lors de la conférence des donateurs. Le pays reste ravagé par la guerre civile qui laisse des millions de réfugiés. Nous ferons le point avec Quentin Dickinson. Dans ce journal également, la polémique en Allemagne autour des éco-prices, des primes musicaux qui ont récompensé un duo de rappeurs accusés d'antisémitisme, dossier suivi pour nous par Charlotte Lalanne. C'est l'un des plus puissants hommes d'affaires français qui est aujourd'hui dans le collimateur de la justice. Depuis ce matin, Vincent Bolloré est en garde à vue à Nanterre avec deux dirigeants de son empire, le directeur général du groupe Bolloré, Gilles Alix, et le responsable du pôle international de Havas, Jean-Philippe Doran. Florence Thion, bonsoir.
Bonsoir.
La justice enquête sur des soupçons de corruption relatives à des concessions portuaires que le groupe Bolloré a décrochées en Afrique de l'Ouest.
Oui, alors commençons par croiser quelques dates et quelques routes. Novembre 2010, Alpha Condé est élu président de Guinée. Quelques mois plus tard, les militaires viennent déloger le concessionnaire du port de Conakry, Jetma, filiale du groupe français Nécotrans, qui avait remporté l'appel d'offres juste devant son principal concurrent, Vincent Bolloré, lequel récupère le marché. 2010 toujours, mais cette fois un peu plus à l'est de l'Afrique, où le président Faure Gnassingbé est réélu à la tête du Togo. Quelques mois auparavant, même scénario, et la filiale SDV Afrique du groupe Bolloré s'installe aux commandes du port de Lomé. Guinée et Togo, les deux présidents ont bénéficié des conseils d'Havas pour leur campagne électorale, mais ces similitudes, cette concordance des temps ne suffiraient pas à fonder les soupçons des juges d'instruction s'il y avait eu, à chaque fois, une offensive menée dans le camp adverse. Exclu de Conakry, Nécotrans dépose plainte pour corruption internationale, plainte classée sans suite par le parquet de Paris. Le groupe en redressement judiciaire finit d'ailleurs dans le giron de Bolloré. C'est en fait une autre plainte, initiée par l'ancien associé de Bolloré au Togo qui va amener la justice française à se pencher sur le dossier. Jacques Dupuis-Dauby accuse la présidence togolaise d'avoir été corrompue par le groupe français, l'affaire étant plus compliquée qu'il n'y paraît, lui-même ayant été récemment condamné en Espagne pour détournement d'actifs de Bolloré. Les magistrats du pôle financier cherchent donc à démêler les chevaux des liens entre les deux pouvoirs africains, Vincent Bolloré et Havas, des liens qui fonderaient le trafic d'influence et la corruption s'il était démontré par exemple que Havas avait sous-facturer certaines prestations en contrepartie de l'attribution des concessions portuaires. Plusieurs perquisitions ont déjà été menées, y compris dans les bureaux de Vincent Bolloré. Sa garde à vue et celle des deux autres dirigeants peut durer jusqu'à 48 heures, à l'issue desquelles l'homme d'affaires peut être déféré en vue d'une mise en examen ou repartir libre des bureaux de la police de Nanterre.
Florence Thion, merci. Dans un communiqué publié en fin de matinée, le groupe Bolloré a formellement démenti avoir commis des irrégularités en Afrique. En tout cas, l'annonce de la garde à vue du patron a fait plonger l'action du groupe à la Bourse de Paris, un recul d'environ 7% à la clôture. La grève à la SNCF a connu aujourd'hui un tout petit regain de mobilisation. 17,87% de grévistes ce matin selon la direction, contre 17,45% hier. Le trafic reste très perturbé car près des deux tiers des conducteurs et la moitié des contrôleurs suivent le mouvement. Cette cinquième séquence de grève perlée s'achève ce soir. La sixième débutera samedi. En attendant, l'intersyndicale entretient la mobilisation. Les quatre syndicats représentatifs, CGT, UNSA, SUD, des CFDT sont réunis en ce moment au siège de Sudrail à Saint-Denis. Et puis, il y a aussi cette manifestation des cheminots aujourd'hui à Paris à l'appel de la CGT. Manifestation pour dénoncer la transformation de la SNCF en société anonyme. Et ce serait, selon la CGT, la porte ouverte à la privatisation. Mathilde Bénézé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez suivi cette manifestation des cheminots à l'appel de la CGT.
Tout à fait, Stanislas. Alors, si le gouvernement dément toute volonté de privatisation du côté des cheminots réunis glace de la Bourse, personne n'y croit. Le lieu du rassemblement est d'ailleurs symbolique pour Mathieu-Paul Reda, drapeau CGT à la main. L'objectif du gouvernement est clair, enrichir les actionnaires.
Tout ça, ce sont, je pense, de vastes carabistouilles. Et puis, de toute façon, la blague, on l'a déjà fait à EDF, à GDF, à France Télécom, à La Poste. Et à la finale, c'est la privatisation. On crée cette nouvelle structure pour pouvoir ouvrir le capital, vendre des titres. Et oui, il y a des gens qui vont aujourd'hui se faire du fric sur le dos du service public ferroviaire.
Et pour les manifestants, ce qui est à craindre avec la privatisation, c'est bien la dégradation du service ferroviaire, comme l'explique Laurent Brun, secrétaire général de la CGT Cheminots.
À partir du moment où l'entreprise publique devient une entreprise par action, elle perd la garantie de l'État au niveau de ses emprunts. Et donc, probablement, on aura une hausse du coût de l'argent pour l'entreprise, donc une hausse de ses frais de fonctionnement. Et donc, probablement, soit un tour de vis supplémentaire sur les salariés, soit une augmentation des prix pour les usagers.
Brassard CGT au bras, Hervé Chenel, salarié chez EDF, témoigne du bouleversement opéré depuis le changement de statut du groupe en 2004 et l'ouverture de son capital.
Le concret, c'est vraiment le coût exorbitant de la facture qui a été multiplié par 2 ou 3 depuis l'ouverture à la concurrence. Donc voilà ce qui a changé pour les usagers, et puis pour les salariés, c'est les conditions de travail qui se dégradent, c'est le réseau qui est complètement pourri.
Alors ce scénario semble encore loin pour la SNCF. Le projet de loi voté à l'Assemblée a en effet réaffirmé que les parts du groupe resteraient incessibles.
Mathilde Bénézé, merci. Et puis à noter cette ouverture du gouvernement ce soir. Édouard Philippe recevra finalement les syndicats de la SNCF le 7 mai prochain lors de réunions bilatérales. Pourtant, la semaine dernière, le Premier ministre avait refusé de rencontrer les leaders syndicaux en les renvoyant chez la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Autre conflit dans l'impasse, celui d'Air France. L'intersyndicale réclame une augmentation générale de 5,1% dès cette année, là où la direction n'en propose que 2% tout de suite. Une proposition sur laquelle les salariés sont appelés à se prononcer par un vote électronique à partir de jeudi. Le PDG d'Air France, Jean-Marc Janaillac, s'est dit prêt à démissionner en cas de résultat négatif. Mais pour Éric Fallu, porte-parole du syndicat SNPNC, ce référendum n'a aucune valeur juridique.
C'est de la manipulation, c'est du chantage évidemment. C'est une façon aussi de nous contourner. Il n'est pas content qu'on ne soit pas du même avis que lui. Oui, c'est vrai qu'on défend l'intérêt des salariés et on est ultra représentatif dans l'entreprise. Il y a bien une entreprise où les syndicats sont forts, c'est bien Air France. Donc aujourd'hui, il ne peut pas nous doubler officiellement, donc il le fait par derrière. On a l'impression d'être revenu à l'heure de Christian Blanc, c'est-à-dire que si les syndicats ne sont pas d'accord, bien je passe par-dessus. Cette consultation n'est pas un référendum, ça n'aura pas de valeur légale, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'un référendum dit oui ou non que ça s'applique ou ça ne s'applique pas. La seule chose que moi je retiens, c'est que si jamais c'est un non, il démissionne. Bon, Monsieur Janaillac a 67 ans, je pense qu'il ne prend pas un gros risque pour sa carrière.
Le syndicaliste Éric Fallu répondait à Kim Kasmi. Du côté de Notre-Dame-des-Landes, l'ultimatum fixé aux zadistes par les autorités a expiré hier soir à minuit. La situation est calme sur place depuis ce matin, car de nombreux dossiers de régularisation ont été déposés en préfecture. Des projets qui vont maintenant être examinés en vue de leur validation. Une chose est sûre, Nicole Klein, la préfète de la région Pays de la Loire, affiche des désormais sa confiance, car l'heure est au dialogue à Notre-Dame-des-Landes, comme a pu le constater notre envoyé spécial Philippe Rondé.
Déterminée mais ouverte, aux côtés des 4 agriculteurs historiques qui ont signé leur beau précaire, la préfète Nicole Klein a réaffirmé sa volonté de dialogue en direction des zadistes qui ont déposé leur dossier vendredi dernier. 41 dossiers reçus, parmi lesquels 28 projets agricoles qui seront traités en priorité dans les prochaines semaines. Quant aux autres projets, Nicole Klein s'est montrée confiante.
Les autres projets, on verra avec les maires, on en parlait à l'instant, mais dans la majorité des cas, ils ne posent pas de problème. Qu'il y a une bibliothèque, après tout, on lit aussi heureusement à la campagne. Donc ces projets-là seront examinés dans un second temps. Le Premier ministre, je l'ai rappelé, avait parlé de projets agricoles. Donc c'est ceux-là qu'on a examinés. Et encore une fois, un certain nombre tiennent parfaitement la route, d'autres ont encore besoin d'être travaillés. Je leur dis qu'il faut continuer de travailler et qu'on va continuer de travailler avec eux.
La préfète qui a également annoncé qu'elle se rendrait à Paris demain pour rencontrer Édouard Philippe à Matignon. « Nous demandons le départ des forces militaires », répond Camille, un des zadistes qui espère que le dialogue autour de l'examen des dossiers va se poursuivre.
Ça avance, alors c'est extrêmement délicat puisqu'il y a un volume de projets qui est important d'une part. Et d'autre part, tous les projets sont interdépendants entre eux, donc la construction de ce dossier prend du temps et l'échéance qui nous était proposée était de toute manière irréaliste par rapport au volume de travail que ça représente. Reste à savoir si c'est vraiment la volonté du gouvernement d'être dans l'apaisement.
Et à la question de savoir combien de personnes sont sur la ZAD, la préfète a répondu autour de 500, dont un tiers qui pourrait poser problème.
Le reportage de Philippe Randet à Notre-Dame-des-Landes. Le dialogue a donc repris, mais le gouvernement continue à afficher sa fermeté par la voix de son porte-parole Benjamin Griveaux. Ceux qui ont un projet agricole et qui ont respecté l'État républicain ont leur place, les autres seront évacués, a encore martelé ce matin Benjamin Griveaux. Emmanuel Macron et Donald Trump ont beau afficher leur complicité lors de la visite d'État du président français aux États-Unis, il y a tout de même des sujets qui fâchent. Illustration tout à l'heure avec la première séance de travail dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Le président américain a vigoureusement dénoncé l'accord sur le nucléaire iranien qu'Emmanuel Macron s'évertue lui à défendre. Nous sommes en direct de Washington avec Grégory Phillips. Bonsoir.
Bonsoir.
Grégory, clairement, le nucléaire iranien divise les deux hommes.
Ah oui, et on va sans doute en parler dans les prochaines minutes puisqu'on attend maintenant le début de la conférence de presse commune entre Trump et Macron. Ce matin, on a assisté à une cérémonie très protocolaire dans les jardins de la Maison-Blanche. Puis il y a eu le premier entretien en tête-à-tête dans le bureau ovale entre les deux présidents français. Et c'est là que, quasi immédiatement, Donald Trump a tapé du poing sur la table et redit tout le mal qu'il pensait de cet accord passé avec les Iraniens en juillet 2015, accord signé entre Téhéran et les grandes puissances. Cet accord est un désastre, a dit le président américain. Écoutez-le.
On va en parler, on verra bien. Les gens savent très bien ce que je pense de cet accord sur le nucléaire iranien. C'est un désastre. On n'aurait jamais dû signer ça. On aurait pu obtenir quelque chose de raisonnable, mais ça, vraiment, c'est terrible. On donne presque 2 milliards aux Iraniens, 1,8 milliard en argent liquide dans le cadre de cet accord. C'est fou, ridicule. On n'aurait jamais dû signer cet accord, mais oui, on va en parler.
Donald Trump a jusqu'au 12 mai pour dire s'il déchire ou non cet accord. Le président français Macron, lui, pense qu'il faut le maintenir et continuer à discuter avec Téhéran. C'est l'une des pommes de discorde de la rencontre entre les deux hommes. Et donc, on attend leurs explications sur ce sujet-là, notamment lors de la conférence de presse commune qui doit débuter dans quelques minutes maintenant à la Maison-Blanche.
Grégory Phillips en direct de la Maison-Blanche à Washington. Merci. Nous reviendrons bien sûr sur cette conférence de presse commune dans notre journal de 22h. Au Canada, l'auteur de l'attaque à la voiture Bélier hier à Toronto a été formellement inculpé tout à l'heure de meurtre avec préméditation. Alec Minassian, c'est son nom, a foncé sur des piétons au volant d'une camionnette de location. Le bilan est très lourd, 10 morts et 15 blessés. Pour le moment, les enquêteurs excluent la piste d'un acte lié au terrorisme. On fait le point sur l'enquête avec notre correspondante Pascale Guéricola.
Le suspect a fait une brève apparition devant le tribunal à Toronto cet après-midi, devant une salle remplie à craquer. Vêtu d'une combinaison blanche, menottes au poignet, Alec Minassian arborait une expression neutre tout au long de sa brève comparution. Il a été formellement accusé du meurtre de 10 personnes et de tentative de meurtre sur 13 autres personnes. La comparution n'a duré qu'une dizaine de minutes. Le suspect va rester incarcéré jusqu'au 10 mai, date de sa prochaine apparition devant le tribunal par vidéo. Quelques détails commencent à sortir sur la personnalité du jeune homme de 25 ans, tout juste diplômé en développement de logiciels informatiques. Ses camarades de classe le décrivent comme quelqu'un d'assez peu sociable, qui a des difficultés à entrer en relation avec les autres. Il ne semble pas avoir de convictions religieuses ou politiques connues. Apparemment, il n'avait pas non plus d'antécédents judiciaires. Le Premier ministre Justin Trudeau a brièvement pris la parole avant d'entrer à la Chambre des communes à Ottawa. Il a répété que le niveau de sécurité nationale au Canada restait identique.
Pascale Guéricola, correspondante de Radio France au Canada. Après 7 ans de guerre et plus de 350 000 morts, la Syrie cherche toujours le chemin de la paix. En attendant le silence des armes, l'ONU organise cette semaine à Bruxelles une conférence des donateurs. Objectif, mobiliser la communauté internationale pour venir en aide aux millions de Syriens victimes de la guerre. Nous sommes en ligne avec Quentin Dickinson à Bruxelles. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Quentin, le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, n'a pas hésité ce matin à dénoncer l'impuissance de la communauté internationale face au conflit syrien.
Oui, la Syrie, dit-on ici, cela risque d'être la démonstration définitive de l'obsolescence des institutions internationales nées en 1945, au lendemain du second conflit mondial. La notion même des valeurs portées par une communauté mondiale des nations s'en trouve désormais mise en cause. Car en effet, ni les Nations Unies, ni l'Union Européenne, ni aucune puissance à ambition universelle n'a été en mesure de prévenir, ni d'enrayer, ni de mettre fin au conflit en Syrie. Leur implication brouillonne aura de fait plutôt contribué au chaos. Alors ici, aujourd'hui et demain, on est tristement réaliste et on ne parle pas vraiment de ramener la paix en Syrie. On se concentre plutôt sur les moyens d'atténuer la souffrance quotidienne des quelques 18 millions de Syriens qui, simplement pour survivre, ont été obligés de tout quitter et de chercher refuge ailleurs dans leur pays, voire à l'étranger. L'Union européenne a débloqué 10 milliards d'euros depuis 8 ans que dure cette guerre civile et internationale. Ces fonds sont mis à la disposition des organisations caritatives actives sur le terrain dans les pays voisins de la Syrie et qui interviennent dans les camps de réfugiés pour ce qui est de la fourniture de l'eau potable, des matériaux de construction et de produits alimentaires. De la même façon, des dispensaires sont installés afin d'assurer les soins de santé élémentaires et de tenter de prévenir les risques d'épidémie. En revanche, la conférence des donateurs aujourd'hui et demain ne se penchera absolument pas sur la reconstruction de ce pays meurtri tant que les armes ne se seront battues et qu'une solution politique durable n'aura pas été imposée au régime actuel par l'ensemble des puissances étrangères qui se sont invitées à des titres divers dans ce conflit.
Merci Quentin Dickinson en direct de Bruxelles. Pendant ce temps-là, les combats continuent sur le terrain syrien. Le régime Assad a lancé une offensive contre les derniers réduits de l'État islamique au sud de Damas et notamment le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk. Depuis la semaine dernière, ces combats ont fait 52 morts dans le camp du régime et 35 chez les djihadistes selon un bilan fourni par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. En Allemagne, la polémique fait rage autour des Eco-Prize, des prix qui récompensent des musiciens allemands ou étrangers. Au cœur de la controverse, un duo de rappeurs allemands, Kollega et Farid Bang, qui ont décroché la semaine dernière le prix Eco des meilleurs artistes hip-hop de l'année. Charlotte Lalanne, bonsoir.
Bonsoir.
Ces deux rappeurs sont accusés d'avoir écrit des textes antisémites où ils se moquent ouvertement des victimes de la Shoah.
Et notamment dans cette chanson intitulée 0815, le duo allemand se compare à des prisonniers des camps de la mort. Mon corps est plus affûté que celui des prisonniers d'Auschwitz, chante-t-il. Des paroles issues donc de leur dernier opus, vendu à plus de 200 000 exemplaires et récompensé pour cela le 12 avril dernier à la cérémonie des prix Echo, l'équivalent de nos victoires de la musique. Onde de choc en Allemagne, des ministres des associations juives s'insurgent et plusieurs lauréats des prix Echo rendent leur récompense en signe de protestation. Parmi eux, le chef d'orchestre Daniel Barenboim. Les intérêts commerciaux ne doivent pas supplanter la décence et l'humanité, dénonçait-il hier, rejoint dans la soirée par le violoniste français Renaud Capuçon.
La musique doit être au service du beau, la musique doit être au service du partage, et c'est inimaginable que la musique puisse être associée à des paroles antisémites, comme c'est le cas, et des choses absolument ignobles. Donc c'est une réaction d'artiste, c'est une réaction d'être humain aussi, et il faut avoir une tolérance zéro avec l'antisémitisme et avec le racisme. Dans cette histoire, j'avais envie de montrer mon mécontentement, simplement pas pour exister, mais simplement parce que je pense qu'on est dans une Europe qui est fragile de ce point de vue-là. Il y a beaucoup de pays où on voit l'extrémisme, les extrêmes qui montent, et je pense qu'on ne peut rien laisser passer, et c'est essentiel. Et voilà, nous on essaye en tant qu'artiste, avec la musique, d'être des messagers de paix, comme le disait Menuhin, mais on peut être des messagers de paix, et parfois aussi s'insurger de choses qui sont choquantes comme celle-ci.
Alors les deux rappeurs, eux, rejettent tout antisémitisme, mais la polémique enfle. Il faut dire qu'elle survient en plein malaise en Allemagne après plusieurs agressions récemment, notamment de deux jeunes portant la kippa à Berlin la semaine dernière. Des agressions qui font craindre la résurgence de l'antisémitisme. La chancelière allemande Angela Merkel s'en est émue à plusieurs reprises ces dernières semaines. Et ce mardi, le président du Conseil central des Juifs d'Allemagne a même déconseillé aux Juifs de porter la kippa dans les rues des grandes villes.
Charlotte Lalanne, merci. Un mot du temps demain pour conclure ce journal. Une météo variable alternant entre grisaille, faible pluie et éclaircie. Des pluies faibles qui traverseront les régions proches de la Manche tôt le matin, puis les pays de la Loire jusqu'à l'Île-de-France et les frontières nord. Les températures maximales ne dépasseront plus les 14 à 17 degrés de la Bretagne et des pays de la Loire au Benelux. Il fera 18 à 22 des frontières allemandes et du centre au sud-ouest. mais une grande douceur résistera sur le sud-est du pays avec 22 à 26 degrés jusqu'à 27 à 29 en Provence. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.